On a parlé donc de ce fameux modèle de confédéralisme démocratique qui promeut l'écologie, l'égalité des genres, l'autogestion locale. C'est aussi un exemple de révolution féministe. La situation actuellement avec la Turquie, tu disais qu'il y a un effacement total en fait. En France, il y a l'exemple célèbre Pinache Selek.
Ça va nous permettre de peut-être aussi évoquer l'hommage qu'il y a eu il y a quelques jours.
Cette attaque fait écho à un autre événement, l'assassinat de trois militantes kurdes en janvier 2013.
On est triste, on est en colère. C'est maintenant la deuxième fois qu'il y a un attentat qui se produit envers les Kurdes en France, à deux rues de là où s'est passé le meurtre des trois femmes il y a 10 ans de cela.
À ce stade, la piste d'un attentat terroriste a été écartée par les enquêteurs. Incompréhensible pour les manifestants et le Conseil démocratique kurde en France.
Un acte politique, une action politique, un assassinat politique.
Mais sur les lieux de l'attaque, la communauté kurde s'interroge.
On veut savoir qui sont les commanditaires.
Beaucoup mettent en cause la Turquie.
Il y a des manifestations en France pour commémorer l'assassinat de trois militants kurdes à Paris. Normalement, on est en France, le pays des droits de l'homme. Peut-être que certains camarades sont déjà allés sur ces manifestations. Les Kurdes en France et dans le monde, en fait, réclament la vérité par rapport à ces attentats qui ont eu lieu donc, dans le cœur de Paris, près de la gare du Nord. En fait, trois femmes militantes, dont une très 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 importante, Sakine Janse, quelqu'un qui a organisé la partie féminine en fait des combattantes, et c'est elle qui a lutté pour que les femmes dans le PKK aient leur propre structure, leur propre formation en non-mixité, etc. Donc, figure très 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 importante qui était venue en Europe et qui a été assassinée. Enfin, on sait qui l'a assassinée et on sait que l'État turc se trouve derrière tout ça, et l'État français bloque le dossier en fait. Et ça fait 11 ans que les Kurdes réclament la vérité et la justice sur ce dossier-là. Malheureusement, les États-nations font leur petit business, quoi. On peut aujourd'hui en France être accusé de terrorisme parce qu'on travaille avec des structures proches du PKK. On sait très bien en manifestation, on sait très bien qui vérifie qui va à ces manifestations, que ce soit des Kurdes ou des Européens. C'est extrêmement surveillé. Enfin, les Kurdes sont surveillés au Kurdistan de Turquie, beaucoup, et en Europe aussi, malheureusement. Voilà. L'idée, c'est de bien faire comprendre aux camarades que, ok, vous êtes en Europe, mais vous êtes en sécurité nulle part.
D'ailleurs, ça s'est vérifié de nouveau avec l'assassinat rue d'Anguin. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une attaque confuse sur le profil.
Tu sais, c'est vraiment terrible, cette histoire. Ouais. C'est plus que terrible, c'est très grave. Enfin, tu vois, genre, les médias français ont relayé que c'était un attentat raciste. Et en fait, ça arrive que des Kurdes soient assassinés en Turquie, enfin dans des villes fascistes, etc. Ça arrive que des gens soient assassinés en Turquie parce qu'ils parlent en kurde dans l'espace public. Ça arrive. Et on dit « Ah, mais non, mais c'était un raciste. Ah, » non, non. L'État français, les médias français ont proposé le même scénario. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans la communauté kurde. L'attentat, il a eu lieu dans l'association, donc le Centre démocratique kurde à Paris. Si tu veux, c'est une association publique. T'as un café, t'as une librairie, t'as des cours de musique, t'as des cours de danse. C'est une association culturelle. Et bien sûr, dès qu'on parle de culture kurde, oui, c'est politique aussi. L'assassin est venu dans cet espace-là, un jour où devait y avoir une réunion de femmes, une réunion importante. Il a trouvé que quelques personnes, dont Evin, qui était pareil, une militante ancienne combattante, qui a été assassinée, qui a organisé cette réunion. Et puis deux autres personnes, un musicien, Meperwer, et un homme qui était là, qui prenait le café, quoi. Et donc, tu vois, en plein Paris, tu sais, Paris 10e, Strasbourg-Saint-Denis, jusque-là, on va vous pourchasser, quoi. Et ça a été un énorme, et c'est encore un énorme trauma, un énorme choc pour la communauté kurde en Europe, enfin pour les Kurdes dans le monde entier, et pour la communauté kurde en France, c'était vraiment terrible.
C'est vrai que tous les ans, donc, il y a des manifestations pour réclamer vérité, justice, compréhension aussi sur ces deux attentats clairement dirigés contre la communauté kurde, quoi.
Ça.
Et ça reste sans réponse, d'autant que dans le premier cas, je crois que le responsable est décédé. Donc ça permet de refermer le livre, de toute façon, de l'impunité. Mmh. Et c'est compliqué de réclamer justice.
Parce que c'est les mêmes scénarios qui se répètent, quoi. Enfin, je veux dire, tu te dis, c'est vraiment, ils ont... Enfin, oui, l'assassin de 2013, c'est quelqu'un qui s'était infiltré dans la communauté kurde, qui s'était arrangé pour avoir la confiance de tout le monde et pour s'intégrer, en fait. Et enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour faire ça et avoir tous les accès et pouvoir faire ce qu'il a fait, quoi.
D'ailleurs, comment vit la diaspora, en fait ? Il y a des pays plus accueillants que d'autres. Il y a des formes d'organisation, de soutien, de vie militante, culturelle.
Il y a des centres démocratiques kurdes. Il y en a plusieurs en France. Ouais. Souvent, c'est dans les grandes villes. Il y en a aussi un à Toulouse, par exemple. Il y en a à Marseille, il y en a, je pense, à Strasbourg. Enfin, il y en a dans les grandes villes, en fait. Les Kurdes s'organisent en association, justement. Donc, c'est des lieux où il y a des rendez-vous. Enfin, il y a souvent des cours de musique. C'est des lieux où les gens peuvent venir se poser, discuter, se rencontrer. Et ça, il y en a dans toute l'Europe. Alors, il y a beaucoup plus de Kurdes en Allemagne. Enfin, la diaspora est très, très étendue en Allemagne.
Avec l'immigration, j'imagine.
Ouais, c'est le pays où il y a le plus de Kurdes en Europe. Mmh. Donc il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie, où c'est, voilà, on trouve ces associations qui sont toutes liées entre elles. Il y a les Pays-Bas, il y a la Suède, etc. Et donc il y a un réseau d'associations qui est lié aussi à la Turquie, etc. Enfin voilà, c'est des lieux qui permettent aussi de continuer la lutte en diaspora, quoi.
Et c'est facile de quitter son pays, comment ça se passe ? Imagine un visa, qu'il n'y a pas une forme aussi de pression, par exemple, de certains États qui refuseraient, par exemple, d'accueillir des Kurdes.
Alors, ça, c'est l'Europe. Enfin, c'est l'Europe telle qu'elle s'est durcie dans les années 2000. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est non-européen, pour venir vivre sa vie tranquillement en France ou ailleurs, il faut que tu prouves à l'État que si tu rentres chez toi, tu vas te faire tuer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un réfugié politique. Si t'as juste envie de venir pour avoir une vie un petit peu mieux, pour arrêter d'être sous pression, ça passe pas. Donc il faut que tu dises que si tu rentres chez toi, tu vas te faire tuer. Il faut que tu prouves ça. Et donc il faut que tu sois réfugié politique. Quand tu viens de Turquie, tu peux pas juste venir comme ça, quoi. Après, en Allemagne, justement, je pense qu'il y a toute une période où il y avait des permis pour les travailleurs. Ils recruteraient des travailleurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à ce moment-là pour ne pas avoir à faire ces démarches d'être réfugiés politiques. Il y a beaucoup de Kurdes qui ont le statut de réfugié politique ici. Le statut de réfugié politique implique que tu n'as pas le droit de retourner sur le territoire qui te menace. Donc, tu n'as plus du tout le droit d'aller voir ta famille, tes proches. Tu n'as pas le droit de pénétrer sur le territoire turc. Après, encore une fois, c'est plein de contradictions. Je veux dire, là, dans cette année, il y a des... En l'occurrence, c'était des journalistes qui ont demandé le statut de réfugié politique en France, qui, me semble, ont eu. Et l'État turc a demandé qu'ils soient renvoyés en Turquie. Et il y a eu toute une négociation, en fait, et ils ont été renvoyés en Turquie, et ils sont actuellement en prison. L'État français leur avait donné le statut. Et donc, encore une fois, ça pose question sur les rapports entre les États-nations, et en l'occurrence, entre la Turquie et la France. Ils font leur petit business, et puis sur le papier, oui, les droits de l'homme, la Turquie, ils font des trucs pas très sympas, et puis en fait... Il y a des choses comme ça qui se passent, donc c'est compliqué, quoi.
Ouais, bien sûr. En plus, le rapport de la France à la Turquie, c'est aussi l'immigration. Parce que la Turquie est perçue comme le dernier rempart contre le flot d'une immigration incontrôlée, dangereuse, etc., quoi.
Mm-hmm.
Donc oui, il y a des accords.
Non, complètement. Bah, l'État turc fait pression avec les réfugiés syriens, notamment. Mm-hmm. La France et l'Europe envoient de l'argent à la Turquie pour qu'ils organisent des camps de réfugiés, tout ça. En fait, ils délocalisent, entre guillemets, cette soi-disant charge des réfugiés. Après, qu'est-ce que l'État turc fait de cet argent ? On peut se poser la question. Sachant que la Turquie est dans une crise économique terrible qui affecte les habitants. Enfin, je veux dire, c'est d'une inflation de 100%. Hein, 100%, c'est-à-dire, même moi, ça fait 4 ans que je fais des allers-retours. Le prix de tout a doublé en quelques années, quoi. Et puis, la Turquie, c'est un des pays au monde qui a le plus de budget sur la guerre.
On parle de résistance aussi, ça peut passer par quelque chose de culturel, notamment à travers la musique, le théâtre, la littérature, le cinéma. Il faut absolument arriver à sauvegarder l'identité kurde face à l'assimilation.
C'était une chanson de Jinma, qui est un groupe de musiciennes qui est basé encore une fois à Diyarbakır, donc la capitale du Kurdistan de Turquie, qui est aussi la capitale culturelle. Et c'est une chanson qui s'appelle « Esjinim ». Je suis la vie, c'est une chanson sur les femmes et la résistance des femmes, encore une fois. Ouais, je voulais parler juste en deux mots du travail des musiciens et musiciennes kurdes à Diyarbakır. Il faut savoir qu'il y a tout un réseau culturel dans cette ville avec différents pôles. Donc nous, la soirée qu'on organise, c'est avec le pôle de cinéma, de cinéastes qui travaillent en langue kurde. Il y a le pôle de théâtre aussi en langue kurde. Et il y a la musique en langue kurde. Et donc ce groupe-là de femmes qu'on vient d'écouter, c'est un groupe qui est en non-mixité choisie. Et ça, encore une fois, ça vient, en fait, ça émane du modèle du confédéralisme démocratique où, en fait, les Kurdes considèrent beaucoup et respectent beaucoup, enfin, je veux dire, les hommes aussi respectent beaucoup le fait que la non-mixité, en fait, permette aux femmes, à un moment donné, de s'exprimer plus librement en fait, c'est très important, ce travail. Ici, c'est vraiment des grands débats de faire des choses en non-mixité. Là-bas, c'est acquis pour les gens qui sont... disons politisés ou qui se revendiquent comme kurdes. Et donc c'est un groupe de 12 femmes, ça c'est une chanson qu'elles ont composée. Oui, je voulais toucher un mot de ça. En gros, c'est un groupe qui s'est composé donc en 2015. À l'époque, il y avait une académie qui s'appelait Aram Tigran, une académie de musique. Et en fait, vous savez, il y a une guerre civile en Turquie en fait, entre 2015 et 2016. Et donc, la ville historique de Diyarbakır a été un tiers détruite et il y a eu tout un, il y a eu plusieurs mois de combat dans la ville en fait. Donc c'est une ville qui a beaucoup souffert dans les dernières années. Vraiment, la jeunesse du centre historique a été vraiment tuée à ce moment-là. Et les musiciens, musiciennes, cinéastes, ils ont voulu continuer à travailler. Ils veulent témoigner aussi de cette période historique dans la ville. Et en fait, ce qui est très frappant dans le travail des artistes, que ce soit les cinéastes, les musiciens, Adi Al-Wakil, c'est que comme ils sont dans une forme de résistance politique, ils sont obligés tout le temps de recomposer des groupes. En fait, par exemple, l'État, en fait, pendant la guerre civile là, en 2015-2016, a fermé toutes les structures culturelles. Donc, encore une fois, pour dire que la culture, elle est politique. Et en fait, en fermant les structures culturelles, ils essaient de dissoudre les groupes. Ils essaient de casser les dynamiques. Et ce qui est très, très impressionnant, c'est que à chaque fois, les camarades sont habitués à recomposer, en fait. Donc recréer une autre structure, et c'est tout le temps cette même chose, enfin vraiment du jour au lendemain. En fait, ils travaillent, enfin moi je fais actuellement un documentaire au Kurdistan en Turquie, donc je passe beaucoup de temps à Diyarbakır, c'est la ville où je travaille, et je fais aussi de la musique, donc je suis aussi dans les structures culturelles, et je vois à quel point il y a cette conscience que du jour au lendemain, la police débarque, le lieu il est fermé, le lieu, enfin l'association elle est dissoute, et il va falloir recomposer, et les gens ont cette force-là de se dire... On va continuer de toute façon. Il y a des gens qui sont mis en garde à vue parce qu'ils font de la culture en kurde. Il y a des gens qui sont emprisonnés pour ça. Mais on continue, en fait. Et Jinma, typiquement, après la guerre civile, donc les musiciens ont recréé une nouvelle école en autogestion et qui aujourd'hui s'appelle Ma Musique, qui existe. Ils ont même créé un atelier de lutherie. Ils ont créé une école spécifiquement pour les enfants. Parce que le fait que les enfants soient baignés... Donc c'est une école où tout se passe en kurde. Pour moi qui suis non turcophone, quand je vais dans ces espaces-là, c'est les seuls espaces à Diyarbakır où vraiment je passe la porte de l'école. Ça y est, je suis au Kurdistan. Parce que l'espace public, c'est en turc, quoi. Là-bas, la musique est enseignée aux enfants dès le plus jeune âge, dès l'éveil. Il y a l'éveil en langue kurde. C'est un geste de résistance de fou. Et se dire que ces enfants-là, même si demain les politiques d'assimilation continuent, ils auront... ça, en fait, et chanter des chants kurdes, des histoires, etc. Et du coup, tout ce groupe de musiciens à Diyarbakır, dont fait partie le groupe Jinma qu'on vient d'écouter, ils vivent tous dans des conditions de précarité extrême. Il y a beaucoup, beaucoup de travail bénévole. Et c'est la même chose pour les cinéastes, en fait. Ils travaillent parce qu'ils pensent que leur cause est juste et nécessaire, quoi.